vous raconter l'histoire du rire, ou plutôt l'histoire d'une femme. C'est une femme qui aime faire rire, mais pas seulement. Une femme qui préfère rire avec que rire d'eux, ou alors rire d'elle-même, mais pour bien rire avec nous. Mais je voudrais également vous parler d'un livre, de Bergson, un livre pas vraiment drôle qui porte pourtant pour titre « Le rire ». On trouve dans ce livre de Bergson une thèse assez originale. Le rire aurait une fonction sociale. Il serait là moins pour nous faire du bien à nous en tant qu'individus que pour remettre dans le rang social ceux qui s'en sont éloignés parce qu'ils sont trop rêveurs, trop maladroits, trop différents. Par exemple, toute la classe rit du retardataire qui arrive avec 30 minutes de retard et passe sa tête endormie dans l'ouverture de la porte. Rire de lui, avance Bergson, c'est en fait l'inviter à rentrer dans le rang. Le rire alors, il rappelle à l'ordre social. Ce rire-là est moins libérateur que normatif. Rire de ce retardataire, c'est ne pas vouloir voir que c'est peut-être lui qui a raison, lui qui a pris ce matin le temps d'observer dans le ciel des nuages que les autres n'ont même pas regardé. Rire de lui, c'est prendre le parti de la société contre la singularité, c'est souligner un écart avec la norme et vouloir le résorber. Pas mal, se dit-elle, pas mal la thèse de Bergson. Mais heureusement, tous les rires ne relèvent pas de cette logique-là. Elle milite pour un autre rire, non pas ce rire qui tend vers la moquerie et le rappel à l'ordre, mais celui qui est pure joie, jaillissement de la vie au cœur même de nos gestes, de nos habitudes, de nos situations. Elle aime un autre rire, un rire qui accueille le différent au lieu de lui intimer de rentrer dans le rang. Un rire moins social, un peu plus fou, plus généreux aussi. Un rire qui n'est pas celui conformiste du troupeau contre le singulier, mais un rire qui dise à ce singulier qu'il a le droit d'être comme il est, qu'il est beau comme ça, et même qu'on l'aime comme ça. Il nous fait bien rire, c'est vrai, mais c'est parce qu'il nous fait du bien, avec sa démarche à part, sa façon de parler un peu bizarre, sa manière de s'emporter, de regarder, sa manière d'insister dans son originalité. Rire grâce à lui, c'est respirer. Rire avec lui, c'est se sentir vivant. Il faudrait rire ainsi au moins une fois par jour, se dit-elle, se remplir de cette joie au cœur de laquelle on se sent si fort, tellement fort qu'on aurait presque envie, avec Nietzsche, de regarder le tragique en face, de lui dire oui, de le provoquer dans un grand rire. Mais qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre ce rire-là, ivre libérateur, et le petit rire moqueur du réflexe social? De quelle nature est le rire qui libère? Pour en parler ce matin, de ce rire qui n'est ni moquerie, ni même ironie, j'ai la joie de recevoir quelqu'un qui en connaît un rayon, Michel Larocque, qui va prolonger sa discussion avec Bergson.
Oui.
Michel Larocque, qui est impatiente, actrice et comédienne au plus de 50 films, réalisatrice également, à l'affiche dans une semaine de Joyeuse Retraite 2 aux côtés de Thierry Lhermitte. Michel Larocque, donc, je vais y arriver, qui nous a rejoint ce matin sous le soleil de Platon dans la caverne de France Inter pour nous aider à répondre à cette belle question: comment le rire nous libère-t-il?
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Michel Larocque.
Bonjour Charles
Pépin. Je vous ai senti impatiente là d'en découdre avec Bergson.
Oui, exactement. Parce que je me demande si la classe ne rit pas parce qu'il s'imagine dans la situation de celui qui arrive en retard avec cette tête-là.
Ouais.
Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est pas forcément un rire qui juge. Tiens, il est en retard, il est drôle parce que vraiment... C'est peut-être, oh ouais, bon Dieu, ouais, si ouais. Ça m'était arrivé, j'aurais cette tête-là, et voilà.
Moi, un rire empathique, plutôt.
Plutôt.
Ouais. En fait, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est ça aussi la démarche philosophique, on fait une analyse. C'est-à-dire qu'on repère des composants, voilà. Donc dans le rire, on va dire qu'il y a un composant de rappel à l'ordre social, ce que dit Bergson, peut-être qu'il est petit,
oui.
Mais il y a un composant de joie empathique, je me mets à la place d'eux, peut-être que dans la vie c'est la synthèse en fait. D'ailleurs si c'est drôle, c'est peut-être le mélange.
Peut-être, il y a un mélange, parce qu'effectivement, s'il rit de s'imaginer à la place du retardataire, c'est aussi qu'effectivement, il y a un problème par rapport à l'ordre social.
Oui,
tout ça est mélangé. Mais je pense qu'on peut rire. Moi, le rire que j'aime, effectivement, c'est le rire où on peut s'identifier, où on y croit, où on rit ensemble de ce qu'on peut faire parfois, de maladroit, ou de, voilà, face à une situation déstabilisante.
Oui, donc, et puis dans ce petit décalage qui fait rire, il y a quand même une revanche de la vie sur ce qui est bien huilé, sur ce qui est parfaitement programmé, sur ce qui est machinal.
Oui, et puis je pense qu'il y a le rire de ceux qui sont en empathie avec l'âme humaine, qui aiment l'âme humaine, et qui observent, qui se pardonnent justement des ratés. Et puis t'as le rire, effectivement, un peu plus dur. De ceux qui ne se pardonnent pas eux-mêmes, hein.
Bien sûr. Alors dans les 50 films dans lesquels vous avez joué, donc on peut pas tous les citer, mais quelques noms quand même qui sont cultes, La Crise, Pédale Douce, Ténor, Enfin Veuve, Camping 3, etc. Voilà, vous avez beaucoup fait rire, mais je trouve que la question qu'on a posée, elle est intéressante parce que il y a des moments où quand même on sait pas dans quel cas on est. Prenons un exemple dans le film à l'affiche duquel vous êtes dans une semaine, Joyeuse Retraite 2, il y a un souffre-douleur dans le film, il y a quelqu'un qui, sur lequel tout s'acharne, qui est un peu humilié quand même. C'est cet agent immobilier, ce cousin qui fait que des conneries.
Moi, je veux bien, vous disiez qu'il est humilié, mais enfin, il rate tout, hein, quand même.
Enfin, en tout cas, il est mis en scène, quand même, pas de façon très gentille.
Non, mais bien sûr.
Et en fait, je pense que si on repose la question du début de notre émission, avec cet exemple, on peut se demander, est-ce qu'au fond, là, on rit de lui? Est-ce qu'on rit de sa différence? Est-ce qu'on accueille sa différence? Parfois, on ne sait pas aussi.
On rit... Attention, le couple que je forme avec Thierry Lhermitte.
Ouais, donc des grands-parents.
Les grands-parents, donc justement, qui ont demandé à notre cousin, au cousin de s'occuper, ouais, de nous faire construire une maison au Portugal pour la famille. Ce couple-là, on se moque de lui aussi. Parce que, enfin, c'est pas clair, mais enfin, ils ont une hiérarchie. Ils sont très stressés, mais ils ont une hiérarchie dans le stress qui est quand même très particulière. C'est-à-dire, ils ont plus peur, quand ils perdent leurs petits-enfants, de ce que va dire la mère des petits-enfants que du fait de les avoir perdus.
Je précise quand même le pitch, pour qu'on comprenne. Ils arrivent en vacances avec les petits-enfants, et puis la maison n'est pas finie.
Voilà, alors qu'elle devait être terminée pour qu'on s'installe.
Donc, il y a des bâches, il y a encore les travaux, etc. Et puis, ils vont perdre deux des petits-enfants sur trois.
Il y a des ânes, pas des bâches, mais bon.
Des bâches, pardon.
Ah, pardon.
Oui, des bâches. Et il y a un seul âne, en plus, qui est vraiment... j'allais pas dire mon personnage préféré, c'est une exemple pour vous, mais c'est quand même...
Non, mais je peux l'accepter.
Il y a une scène que je spoilerai pas, qui m'a fait vraiment mourir de rire, où on voit s'approcher peu à peu ce museau de l'âne. D'ailleurs, c'est un type de comique particulier. Le prenez pas mal, mais c'est un comique, en fait, on voit arriver... On voit arriver ce qui va nous faire rire, mais ça nous fait rire quand même.
Ben, c'est-à-dire que ça pourrait ne pas vous faire rire, mais je pense que on aime tous, parmi les acteurs qui font partie de ce film, être sincères.
Ouais.
Et c'est là où on peut s'identifier. Quand on joue en voulant être drôle, on n'est pas drôle, je trouve. Personnellement. Quand on joue en ayant de l'humour, tout simplement, et en ayant conscience de la situation qu'on est en train de décrire et de raconter, et en étant vraiment sincère, voilà. Là, il se passe quelque chose pour le spectateur, et on partage justement cet humour-là avec lui.
Je comprends bien. J'aimerais bien profiter de votre présence ici pour essayer de questionner peut-être l'évolution en fait du comique et de ce qui fait rire. Voilà, en 2021, vous avez présidé le jury du film international de comédie à l'Alpe d'Huez, et vous êtes dans ce duo culte depuis des années avec Pierre Palmade. Ils se sont aimés, ils se sont tant aimés, etc. Donc, est-ce que de par cette position aussi, on vous propose sans cesse des rôles. Est-ce que vous voyez que quelque chose change, en fait, dans ce qui fait rire?
Alors, je ne crois pas, mais il y a différents humours, il y a différentes familles d'humour, il y a différents rires. Et voilà, chacun doit défendre celui qui lui plaît. Par exemple, quand je fais rire, j'aime faire rire comme moi j'aime rire.
Oui.
C'est tout. Et je respecte les autres formes d'humour qui me sont plus étrangères. Voilà. Encore une fois, je vais me répéter, mais j'aime quand on peut s'identifier, j'aime quand on parle de nous. C'est-à-dire, quand je fais rire avec un personnage, je parle de nous, mais de moi aussi. C'est pas de lui ou des autres. Et c'est là la différence.
Et comment on trouve le bon ton? C'est quelque chose qui s'observe quand on voit ce film, par exemple. Il y a quelque chose dans votre visage, dans cette expressivité.
Hein.
Ça change très vite. Vous avez un truc très, très, très mobile, les expressions du visage.
Ouais.
Et c'est vrai que... Comment on trouve ce ton? Comment on trouve
on
le
trouve
bon
pas
ton?
Un ton, en fait. Moi, je construis vraiment, très sincèrement, un personnage. C'est ma sœur jumelle, mais qui a été séparée de moi à la naissance. Je lui invente une vie, une construction qui correspond un peu à ses petites névroses dans l'histoire qu'on raconte. Et je la joue... j'aime rire, donc j'ai le sens du comique des situations. Donc voilà, effectivement, je le laisse se libérer, ce sens-là. Et je la joue le plus sincèrement possible, parce que dans des trucs un peu extrêmes, si on est très sincère, c'est là où je pense que le rire arrive. Mais par exemple, avec Pierre Palmade, il y a des couples qui nous attendaient à la fin des spectacles pour nous dire « Mais vous, c'est rien !» moi, vous savez ce qu'elle m'a fait.
Ouais,
non, mais c'est-à-dire, ils ont vraiment, ils avaient l'impression de voir un couple qui leur ressemblait et ils nous battaient par rapport à certaines interactions.
Ouais, il y a tous ces sketchs cultes, enfin ces scènes plutôt, le dîner chez les parents, le permis de conduire. Mais du coup, je reviens sur ma question. C'est toujours les mêmes qui font autant rire. Il y a pas un changement. Il y a pas un humour qui s'use.
Je crois pas. Là, il y a une petite régression par rapport à certains propos qu'on ne peut plus. Enfin, je sais pas comment.
Est-ce qu'on pourrait faire pédale douce aujourd'hui?
Je sais pas.
Vous avez l'air de savoir.
Non, je sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas parce que il était vraiment un petit peu en avance sur son temps puisque bon, on parle des doubles vies cachées, on parle du sida qui arrivait, donc c'est quand même voilà une période ancienne. Enfin, on est ailleurs et puis les choses ont changé. Donc je sais pas si on pourrait le faire de cette façon-là. Je pense à Ma vie en rose, je fais un film qui était très important, parce que j'étais la mère d'un petit garçon qui disait qu'il était une fille.
Ouais.
Donc c'était je l'ai tourné en 96, donc c'était quand même très précurseur sur les problèmes de genre. Et c'est vrai que je ne sais pas. Ouais, je pense que si, Ma vie en rose, on pourrait le tourner à nouveau.
Ouais, parce que...
Il est assez intemporel, ouais.
Vous êtes aussi réalisatrice, vous avez fait 3 films, et puis le dernier c'est Alors on danse, où il y a donc ce titre emprunté à Stromae, où il y a aussi une idée importante qui est que on peut traverser une épreuve, en l'occurrence là c'est une femme cocu qui va reprendre le pouvoir sur sa vie par la danse, on peut traverser une épreuve, quelque chose qui est pas drôle, et finalement en sortir grandi, c'est ça l'idée?
C'est que, moi je pense que, ou le sport, ou la danse, ou la musique permettent des rencontres entre gens très différents. Il y a dans le film Alors on danse un garçon qui s'appelle Sofiane Chalal que j'ai rencontré grâce à ce film puisqu'il avait fait la chorégraphie du film, il a joué, ce qui est un champion du monde de hip-hop qui pèse 140 kilos, qui habite Maubeuge et mon personnage le rencontre dans le film et moi je l'ai rencontré dans la vie, c'est devenu un ami proche et c'est par le biais quand même de cette alliance artistique qu'on s'est rencontrés. Il a 35 ans. Enfin, je veux dire, on est très 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 différents et j'adore parce que quand on est allé faire les avant-premières, on dansait ensemble, on a fait danser la France entière et c'était mon rêve. J'adore nous voir l'un à côté de l'autre et voir ce que ça provoque chez les gens qui s'étaient mis tous à danser, tous les spectateurs, avec tous les âges, tous les milieux sociaux. Et j'aime raconter ça.
Mais qu'est-ce qu'une vraie rencontre pour vous? Une vraie rencontre qui n'est pas un simple croisement, au fond?
Eh ben, c'est s'intéresser l'un à l'autre, c'est apprendre à se connaître, c'est vraiment être curieux de l'autre. Et créer des expériences en commun.
Et est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment, grâce à ce genre de rencontre, finalement, changer, être un peu décentré? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu les yeux, le monde avec ses yeux à lui? Est-ce que c'est allé jusque-là, une vraie rencontre?
Oui, d'abord, on a beaucoup parlé de son enfance. Je suis fille unique, il a 9 frères et sœurs. Non, mais c'est déjà, pour moi, c'est un autre monde. Ses parents étaient immigrés algériens, arrivés dans le Nord. Donc, oui, on s'est raconté nos vies. Alors, bon, moi, j'ai une mère qui s'était échappée de son pays. Donc, du coup, on trouve des points communs. C'est ça qui est intéressant aussi.
Mais est-ce que vous ne croyez pas aussi que ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est ce que montre un peu votre film, c'est que même s'il n'y a pas des points communs, s'il y a des différences, on arrive au fond.
Mais évidemment.
On arrive à comprendre que la position de l'autre, que le regard de l'autre, en fait, n'est pas le mien, mais que j'arrive enfin à faire ce qu'on appelle en philosophie l'expérience de l'altérité.
Mais
vous savez, Platon disait qui n'a jamais aimé ne peut pas philosopher. Alors, au début, on ne comprend pas cette phrase. On dit je ne comprends pas, en fait.
Bien
quel
sûr.
Rapport entre l'amour, l'affect et la pensée.
Ouais.
Et en fait, ce qui veut dire, c'est que philosopher, en fait, c'est se mettre à la place,
à la place de l'autre.
Et on n'y arrive pas sans amour.
Mais non, mais c'est le grand. Mais évidemment. Et c'est le grand problème parce que on ne se connaît pas. C'est-à-dire que quand on juge une façon de se comporter de quelqu'un, on a l'impression qu'il est nous. Et donc on va dire oh là là, moi si je faisais ça, ça voudrait dire ça. Non, il y aurait beaucoup moins de souffrance si chaque fois on se demandait oh, pourquoi il fait ça.
Et vous croyez que l'humour ça aide à se mettre à la place de l'autre?
Ça aide. L'humour aide. L'humour aide parce que il allège la souffrance.
Oui, c'est ça. Il y a un allègement.
Oui.
Dans le rire.
Et donc, quand il y a un allègement, il y a un petit détachement. On n'est pas en prise avec la situation. On se sent moins victime. En fait, on ne voit pas bien les choses si on se sent victime de tout. Alors c'est plus facile hein, d'être victime. C'est une position qui arrange beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Hein. Mais je pense que à partir du moment où on ne se sent pas victime, on se sent responsable de sa vie et qu'on a un détachement qui permet de comprendre l'autre, les choses peuvent vraiment s'améliorer.
Finalement, c'était ça l'histoire de votre film. Alors, on danse. Au début, elle est victime. Elle est victime de l'adultère. Et puis, finalement, elle décide d'être responsable de sa vie et de reprendre la main.
Oui. Souvent, on va soi-même vers des situations compliquées, vers de la souffrance. Et on est victime de soi-même d'abord. C'est difficile parce que je me rends compte que quand on parle de responsabilité totale dans nos vies, ça gêne beaucoup.
Mais c'est ça d'ailleurs le début d'un progrès dans une psychothérapie ou dans une psychanalyse, c'est le jour où on arrête de dire « c'est de la faute de... »
Oui.
En fait, c'est ma vie, je vais en répondre.
Oui, c'est ma faute. C'est ma faute, c'est moi qui ai choisi d'être avec telle ou telle personne. Je suis allée vers telle ou telle personne parce qu'il avait telle ou telle névrose et que ça m'arrangeait à ce moment-là ou que je me sentais protégée parce que si, parce que ça, donc voilà.
C'était les Stones Out of Time, qui signifie, je précise, périmé.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Michel Larocque, que j'ai énervé tout à l'heure avec cette idée bergsonienne que le rire relèverait d'un rappel à l'ordre social. D'après Bergson, dans son livre agaçant et pas drôle du tout, le rire, en fait, le rire permet de ramener le déviant en lui disant « Attention, rentre dans le rang, rejoins la norme, donc il n'y aurait pas d'empathie, mais un rappel à l'ordre social. » Alors, Michel Larocque a manifesté un petit peu de colère. Il a dit, mais pas du tout. Pour moi, le rire, c'est le contraire. C'est se mettre à la place d'eux. C'est empathique. Et moi, comme comédienne, c'est ce que je fais, finalement. Et là, on a découvert qu'au fond, Michel Larocque était plutôt socratique, en fait, que bergsonienne. Parce que Socrate nous dit que c'est précisément ça, la fonction, non pas de l'humour, mais de l'ironie. C'est se mettre à la place de l'autre. Et c'est, comme le dira très bien Yankelevitch au sujet de l'ironie socratique, c'est faire parier sur l'intelligence de l'autre, au fond. Et Yankelevitch dira très joliment, l'ironie, c'est tendre la perche à celui qu'on égare. C'est-à-dire, je te taquine, je t'enfonce un peu dans la piscine, mais en fait, je te tends la perche et tu vas pouvoir t'élever, t'en
ouais.
sortir.
Oui, il faut que tu te serves de ce que j'ai provoqué chez toi, ouais, c'est ça. Mais moi, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup parce que, par le rire, on fait quand même passer beaucoup de messages, dans la mesure où, quand on rit, on a les oreilles bien ouvertes, on regarde bien. Et là, on peut ouvrir des portes, dans une histoire qu'on raconte. De temps en temps, on peut dire, alors évidemment, ce personnage pourrait aller dans cette direction, mais il peut aussi évoluer et passer par cette porte-là et emprunter un autre chemin. Et ça, j'aime bien, alors je le fais pas toujours consciemment, mais j'aime bien raconter des histoires qui ouvrent un peu le champ.
Ouais, c'est intéressant, j'avais jamais pensé à ça, que au fond l'humour ouvre aussi un champ du possible.
Oui.
D'ailleurs, on va peut-être rire parce que telle personne s'est plantée de chemin, mais il aurait pu ne pas.
Oui, exactement. Et puis, encore une fois, je pense que je me souviens que quand j'étais à Nice, je suis niçoise, avec ma meilleure amie, on s'installait à une terrasse de café et on regardait ce qui se passait dans la rue. Passer les gens, etc.
Je crois qu'alors vous voyez passer parfois Yannick Noah à l'âge de 12 ans.
Ouais, ça c'est vrai, ça, mais je ne le voyais pas toujours dans la rue, c'était plutôt au club de tennis. Ouais. Mais, et on les regardait et on les voyait de temps en temps se rencontrer ou se retrouver, je ne sais pas, tomber un peu. Et on voyait comment ils allaient rétablir un peu l'ordre sur un tout petit truc déstabilisant. Et on riait, mais aux larmes, en s'imaginant nous à leur place. Ça n'a jamais été... il est ridicule, ça n'a jamais été ça. Alors il y a sûrement d'autres façons de rire, j'en suis sûre, mais ça a toujours été mon cas.
Alors Bergson, pour le coup, il dit aussi autre chose dans son livre, il dit que le rire c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Donc le vivant, en gros, c'est de la souplesse, de l'adaptation, et le mécanique, c'est qu'on... Par exemple, si un humain se met à marcher comme un robot, ça fait rire, parce qu'il y a du mécanique qui vient gripper, en quelque sorte, la fluidité du vivant. En fait, c'est un peu ce que vous racontez. Quand vous êtes avec votre copine sur une terrasse à Nice, vous riez que les gens... Voilà, quelqu'un qui se cogne, d'ailleurs, parfois on rit méchamment. Enfin, c'est un peu méchant, quelqu'un se cogne bêtement le bout du pied sur le trottoir et saute comme ça et manque de s'éclater par terre. Et c'est vrai qu'on rit, mais pourquoi on rit, en fait?
On rit, moi, encore une fois, je me répète, mais on rit parce qu'on s'imagine à sa place. Et on se dit, voilà, on ne sait pas comment on aurait la tête qu'on aurait faite si on s'était cogné le pied de cette façon-là, dans cette rue-là. Il y a cette observation de l'humain, effectivement, que j'ai eue certainement très, 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 depuis que je suis née, je pense, et qui nous sert, nous, à nous, comédiens, énormément, parce que on a des infos sur l'humain en observant, évidemment, et à un moment donné, on s'en sert pour tel ou tel personnage. Et puis, je crois qu'on a tout dans nous. Donc, il y a pour un personnage quelque chose qui doit ressortir et dont on va se servir. Mais on l'a. Je veux dire, souvent, on est exaspéré par quelqu'un parce qu'il a quelque chose qu'on ne supporte pas avoir en nous, qu'on ne se pardonne pas d'avoir et qu'on a enfoui. Donc, ça rend très humble, d'ailleurs, quand on dit « cette personne, ah, vraiment, je peux pas », ben, malheureusement, ça nous permet de connaître quelque chose qu'on a en nous et qu'on ne veut pas s'avouer.
Alors, est-ce que vous pensez que ce rire dont on parle aide à bien vieillir, j'ai envie de dire? C'est quand même le sujet de ce film.
D'abord pour les rides, parce que quand on rit, on fait marcher les muscles, donc déjà, c'est pas mal pour le visage. Ensuite, parce que le rire est jeune. Je veux dire, je pense que quelqu'un de très sérieux et qui ne s'autorise pas à rire vieillit très prématurément.
Ça me rappelle une jolie phrase de Pierre Dac, c'est ça ?
Oui, c'est vrai.
C'est quoi la phrase exacte ?
C'est bien vieillir, c'est accueillir les années avec le sourire. Un sourire est toujours jeune. Oui,
oui c'est ça.
Vrai, c'est vrai. Mais le rire, c'est sûr. Le rire, c'est une façon de penser, le fait d'avoir de l'humour, qui est jeune.
Est-ce que vous pensez que le secret de la longévité, c'est d'ailleurs on a écouté tout à l'heure les Stones, c'est un bon exemple. Si on veut savoir comment bien vieillir, on a qu'à aller les regarder.
Oui. Est-ce que j'aimerais bien voir leur secret d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont.
Je suis pas sûr que tous les secrets des Stones soient à voir, mais en tout cas, est-ce que vous croyez qu'un des secrets de bien vieillir, c'est de enfin réussir à jouir de l'indifférence au quand dira-t-on ?
Bien sûr, c'est pas être dans le regard des autres. C'est moi, je pense que c'est la définition de la bourgeoisie.
Ah bon ?
Vivre dans le regard des autres. Je
à mon
crois.
Avis, c'est la définition de la condition humaine. Hein.
Ouais, mais c'est ça, très bourgeois, je crois. C'est parce que ça peut être un statut social, mais j'ai joué, par exemple, dans Pédale douce, ouais. Madame Agut, c'est la plus tolérante. Pour moi, c'est la moins bourgeoise de ce film. C'est celle qui comprend tout, qui accepte, qui s'adapte. Donc, j'ai un peu ce sentiment-là que être bourgeois, c'est vivre dans le regard des autres, et faire en sorte de correspondre à quelque chose qui fasse qu'on est jugé de manière agréable et aimable.
Et être artiste aussi ?
Moi, artiste, je veux dire, on ne peut être bon que si on n'est pas dans le regard des autres. On est exigeant avec nous-mêmes, on est des tas de doutes, parce que c'est un métier de remise en question, et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Et ça fait rester jeune aussi. Mes copains artistes, ils restent jeunes, mais il y a vraiment leur enfant intérieur qui est très présent.
Et puis on sent bien d'ailleurs que, alors que souvent le jeune artiste, il est quand même attaché à ce besoin de reconnaissance, il a quand même du mal.
Oui, il n'a pas compris le positionnement.
C'est pas qu'il n'a pas compris, si. c'est normal.
On peut pas faire. Non. La question, c'est voilà, j'ai des émotions en lisant un texte, j'ai envie de transmettre ces émotions. Est-ce que je vais avoir assez de succès pour y arriver ? Est-ce qu'on va me donner du travail ? Mmh. Est-ce que je vais pouvoir être bankable, etc. Bon, voilà, ok. Donc ça, c'est gagner une certaine liberté. Il y a une petite angoisse, un petit stress. Mais sauf que si vous avez ça en tant que jeune artiste, vous allez vous restreindre parce que vous allez vouloir faire bien. Et faire bien, c'est faire moyen et tout le monde peut le faire. Alors que le lâcher prise, dire voilà, moi j'ai quelque chose à vous offrir. Je vous l'offre généreusement, sans savoir si comment vous me trouvez, alors je suis drôle, alors je suis émouvant. Si vraiment vous le faites sincèrement, généreusement, le retour va être extraordinaire et vous allez être excellent, vous allez être différent, vous allez être ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on est unique, donc on est important, tout le monde est important. Quand on veut réussir, on se plante, je crois.
D'ailleurs, c'était aussi le sujet de votre film, encore une fois. C'est que parfois, on peut avoir un échec qui nous nourrit davantage, qui nous ouvre davantage à l'avenir, finalement, qu'un succès qui va procurer une certaine ivresse passagère, mais
oui,
au fond, ne pas nous
joie.
Faire grandir.
Oui, une joie, mais effectivement, on a tendance à se reposer quand on est joyeux, heureux, parce qu'on se dit, bon, ben c'est bon, on est bien. Alors qu'une souffrance va nous faire rechercher plus la solution pour moins souffrir et nous faire évoluer. Quand on a envie, c'est là où on comprend quelque chose d'important.
Vous pensez que quand on a une recette qui marche, il faut réussir à pas vouloir la répéter ?
Mais il n'y a pas de recette dans notre métier. S'il y avait une recette, tous les films marcheraient, on saurait. Et puis d'ailleurs, je pense que même si parfois c'est un peu pénible d'avoir toujours des doutes et de se remettre en question, c'est vrai que c'est comme ça qu'on reste bon dans ce métier. Si vraiment on faisait, il y avait une formule et une recette, je pense qu'on on aurait moins envie de le faire.
On entend peut-être la réponse à la question que je voulais vous poser. Voilà, après une très très longue carrière, plus de 50 films, on peut se demander quel est le désir qui est encore là ?
Alors, j'adore ce métier, j'ai encore vraiment envie de le faire, et j'ai l'impression, et je vous assure que c'est pas des mots, c'est sincère, que j'ai rien fait, et que j'ai tout à faire. J'ai envie d'être embarquée dans des univers différents, par des réalisateurs différents, d'être peut-être à l'étranger, de travailler avec dans d'autres mondes. Et voilà, c'est ça qui m'amuse, continuer à me surprendre aussi.
C'est-à-dire finalement à retrouver de la naïveté, de l'innocence, de l'étonnement.
C'est un métier où quand même quand on va tourner, on se demande si on va y arriver tous les jours. Hein. Donc il faut le vivre ça.
quand même payer toute la maison avec notre argent, alors qu'elle n'est même pas terminée.
Moi, je suis dans la branche, je peux vous dire, j'en vois des trucs pas nets. Hein. C'est escroc et compagnie, ce milieu. Rien que la dernière fois sur un de mes chantiers, j'ai un ouvrier qui a refait toute la maison de petit vieux. Bon, bah, dernier jour, il encaisse le chèque, normal.
C'est la base.
Le lendemain, il vient récupérer son matériel. Les petits vieux étaient au travail. Et ben, bah, ils rentrent chez eux, plus rien.
Tu vois ?
Ma hub décoration, tout avait disparu. Enfin, je sais pas si vous imaginez. Évidemment, ils ont jamais retrouvé l'escroc. Hein.
Incroyable.
Ils profitent de la vieillesse des gens, c'est comme pour vous. Le truc, c'est que les vieux, ils sont plus naïfs que les autres personnes. C'est ça le problème.
Donc c'était un extrait de Joyeuse Retraite 2
c'est
qui
Constance
sort au cinéma.
Labbé.
Voilà, qui sort au cinéma dans une semaine. Et puis celui qui dit oui, c'est la base. Alors c'est l'agent immobilier qui arrête pas de faire des conneries,
oui.
Et qui justement n'a pas respecté la base puisque
il a
donné tout l'argent alors que la maison n'était pas terminée. Il y a cette idée que les vieux sont naïfs, mais est-ce que c'est pas leur force justement ? Est-ce que c'est pas ça ? Moi j'adore la figure du vieux sage qui retrouve une capacité d'étonnement qui est celle de l'enfant en fait.
Ah mais alors ça c'est merveilleux. Le vieux sage, parce que, alors là, pour le coup, il n'est pas vieux, effectivement, il reste jeune. Mais là, en l'occurrence, elle ne parle pas d'un vieux sage, je pense.
J'ai compris.
La quiche. Moi, je l'appelle la quiche dans le film. Et elle me dit, mais je ne suis pas une tarte. Je dis, mais je n'ai jamais dit tarte.
Ouais. Vous avez dit quiche.
Donc oui, il y a, je pense, par rapport à l'âge, une peur de la mort, je crois. Qui fait qu'effectivement, quand quelqu'un avance en âge, ben, on sent que la mort est plus près qu'avant, alors qu'elle peut surgir à n'importe quel moment. Hein, on est d'accord, les accidents arrivent. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a un petit rejet, parfois, de personnes qui ont avancé en âge. En l'occurrence, je pense qu'il est très important, c'est aussi ce qu'on ressent. Si on est dans l'œil des autres, et si on ressent ce rejet, je pense que on rentre dans un processus justement de vieillesse par rapport au jugement qu'on peut éprouver dans les yeux des autres, et on se sent vieux parce que eux racontent ça. Mais si on se sent bien en forme et si on continue à s'amuser, à aimer la vie, à aimer ce qu'on fait, à évoluer surtout, je pense. Je pense ça aussi, c'est une clé de jeunesse,
bien sûr,
non
bien
continuer
sûr,
d'évoluer. Ouais. Il n'est jamais trop tard. Mais j'ai une mère qui évolue en permanence, et ça fait du bien d'ailleurs, en tant que fille, de voir sa mère, qui vient d'avoir 88 ans, comprendre des choses et vraiment évoluer. Et ça, c'est une clé.
Oui, qu'il y ait du renouveau et pas simplement du déclin. D'ailleurs, Pascal Bruckner a écrit ça dans un joli livre sur ce que c'est que bien vieillir. Un livre qui porte pour titre Une brève éternité, sous-titré Philosophie de la longévité. Et Pascal Bruckner écrit « La vieillesse est un combat entre la ferveur et la fatigue, entre la grâce du renouveau et la disgrâce du renoncement. »
Oui. Ouais. Et puis c'est aussi beaucoup aussi être dans le moment présent, je crois, non ? C'est quand même une forme d'éternité.
Vous
non, est-ce que c'est pas ça?
Bah, disons que ce serait bien qu'on y arrive avant aussi. Mais c'est vrai que si on peut avoir cette chance, en vieillissant, de savoir mieux ce qui compte, de retrouver le prix des liens, et finalement de s'alléger. J'ai une autre petite question quand même, c'est quand on pensait à ce vieux sage souriant qui finalement arrive au seuil de la mort en ayant aussi une distance, en étant capable de sourire à la vie, de sourire aux jeunes, je pense à la figure d'Edgar Morin, par exemple, qui est centenaire et qui a ce sourire-là. Et puis en face, je vois la figure d'Alain Delon, qui est une caricature, qui est un peu crispée. C'est juste deux exemples pour poser ma question. Est-ce que vous croyez qu'il y a une justice, en fait ? Et que plus on vieillit, plus on montre sa vérité ?
Je crois. Alors, j'en ai parlé autour de moi, justement, à des personnes très compétentes qui m'ont... Ce que je disais, on n'est pas tous égaux. On a peut-être... certains ont des forces que les autres n'ont pas. Et on m'a répondu, et ça me rendait particulièrement tolérante, justement, de penser ça. On me dit non, c'est un choix. On est victime ou pas ? On en parlait au début de l'émission. Donc, voilà ma réponse.
Toujours cette philosophie, au fond, de la responsabilité. Voilà, ma vie, c'est ma vie.
Tout n'est pas clair. Présage, tout m'allumait. Présage.
Juliette Armanet, Tu me plais, mais attention, P-L-A-Y.
France Inter, sous le soleil de Platon.
Nous sommes avec Michel Larocque et nous parlons de beaucoup de choses finalement, de consentement, d'acceptation, d'allègement, de ce que c'est que bien vieillir. Michel Larocque, vous êtes à l'affiche de Joyeuse Retraite 2 qui sort dans une semaine au cinéma. Mais attention, si vous voulez comprendre l'histoire, il faut voir le 1 et le 1, il passe dans deux jours à la télévision.
Absolument.
Sur M6, Joyeuse Retraite 1.
Vendredi soir.
Vous allez découvrir ce que c'est qu'un agent immobilier pas très doué qui crée une situation cocasse. Alors revenons à ce qu'on disait avant sur ce que c'est que bien vieillir. Est-ce que au fond on pourrait pas se dire aussi que la vie passe vite, qu'on n'arrive pas à s'arrêter pour se poser les vraies questions, soit parce qu'on les fuit, soit parce qu'on n'a pas le temps,
parce qu'on
et que finalement ce qu'on appelle la retraite, d'ailleurs le mot n'est pas très joli, on devrait avoir un autre mot.
Peut-être on peut penser une retraite sur un plan spirituel aussi. On peut le prendre dans ce sens-là.
Oui, mais il y a quand même cette idée, même la retraite sur un plan spirituel, je trouve qu'il y a l'idée du retrait ou de la défaite militaire, etc.
Alors qu'on veut rester dans la vie, ouais.
Je préférerais prendre le mot des anciens qui disaient l'otium, c'est le temps du loisir.
Voilà.
Et est-ce que c'est pas le moment de, en fait, se poser vraiment les bonnes questions?
D'être un peu face à soi. C'est vrai que quand on est en train de commencer une carrière, de commencer une vie de couple, de commencer une vie de jeunes parents et de parents tout court, on a moins de temps et peut-être ça nous arrange. Mais je pense que le fait de ne plus être dans une activité professionnelle, avoir des enfants qui ont grandi, etc., permet... si on en a la force, l'envie et le courage peut-être, de prendre ce temps pour effectivement se poser des questions importantes et pour gagner une espèce de lâcher prise.
Ouais, ça, elle était jolie la phrase de Pascal Bruckner parce qu'elle comprenait cette idée, mais dans un balancement entre la grâce du renouveau et la disgrâce du renoncement.
Oui.
On voit bien qu'il y a cette idée comme ça de... c'est quelque part, c'est le moment, j'ai le temps de la lucidité, le temps pour savoir ce qui compte, le temps pour prendre soin des liens, mais également, en même temps, j'ai la fatigue. Comme si la vie se retirait en même temps qu'elle s'ouvrait, quoi.
Alors, je veux dire, le renoncement, moi je vois plus un lâcher-prise, justement. Le fait qu'il va toujours être toujours positif. Mais c'est vrai, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je vis. Non, mais je lisais l'autre jour que Nietzsche disait que la joie est une base puissante sur laquelle il faut s'appuyer. Et c'est ma façon de vivre. Je me sens très proche de Nietzsche quand il dit ça. C'est ma façon de vivre, donc j'ai toujours cette façon de voir les choses, sinon ça m'enlève mes forces. J'arrive pas à vivre autrement, à voir les choses autrement.
À ce sujet, Thierry Lhermitte, votre mari dans le film, vous êtes donc un couple de grands-parents, se moque de vous et dit « mais c'est ton truc de développement personnel, ça ».
Oui, parce qu'elle dit toujours « oui ». Mais c'est-à-dire qu'elle est très stressée, donc je pense qu'elle est allée voir quelqu'un qui l'a conseillé.
Et un coach de vie.
En
développement personnel qui lui dit « voilà, il faut toujours voir le
bon côté des choses ». Mais là, pour le coup, elle se force un peu à le voir.
Ouais, bah, c'est ça
alors
drôle,
que personnellement, j'ai plus vraiment tendance à voir ce côté-là. Et c'est une façon de vivre aussi.
Il y a une scène assez bonne où Thierry Lhermitte dit « bah non, il faut pas voir les choses du bon côté, c'est la merde ». Alors vous dites « mais si, quand même, il y a ça, oui, c'est la merde ». Oui, quand même, c'est la merde, quelque part. Il a un consentement, lui aussi, nietzschéen.
Oui.
Quand vous disiez « voilà, je suis nietzschéenne », c'est au sens peut-être aussi où la joie n'est pas le bonheur. C'est-à-dire le bonheur, c'est un état durable, complète satisfaction.
Oui.
On parle pas de ça. La joie, c'est juste une émotion. C'est un moment, un truc qui me prend et qui fait que je dis oui à la vie, même si elle n'est pas parfaite.
Oui, et puis, on peut voir quand même les choses positives qui forment notre vie et qui sont source de joie.
Mais même, on peut aussi voir les choses négatives et puis être joyeux quand même.
Oui, bien sûr. Et puis se sentir bien. Être conscient. Vous savez, j'ai eu un accident de voiture très grave à l'âge de 19 ans. On a failli me couper la jambe.
Ouais, je crois que vous êtes resté dans le coma.
Pas très longtemps, mais oui, j'ai eu un petit coma. C'est là où j'ai eu, voilà.
Que vous deviez.
Que j'avais envie d'être actrice, voilà. Alors que je le savais pas avant. Mais c'est vrai que surtout, un jour, on me massait et je me suis dit, j'ai mes deux jambes. Et j'ai eu les larmes aux yeux. Non, mais on oublie qu'on a beaucoup de chance. On trouve normal d'avoir nos mains, nos bras, nos membres. Mais en fait, c'est déjà un cadeau.
On oublie le miracle même du fait d'exister.
Et de respirer.
Le miracle même du fait d'avoir un corps, tout simplement.
Oui.
Et notamment un corps qui peut nous donner, finalement, beaucoup de plaisir.
Il est devenu intolérable de prendre de l'âge. C'est obscène de prendre de l'âge. Et nous, les vieilles, encore plus que vous, les vieux, excusez-moi, je fais une différence entre les garçons et les filles, parce que c'est objectivement vrai, eh bien, vous êtes encore un tout petit peu moins périmés que nous, les vieilles. Nous, on se périme beaucoup plus tôt et on doit être invisibilisés beaucoup plus tôt que vous, qui pouvez encore vous pavaner.
Alors j'ai choisi cet extrait de Laura Adler parce qu'elle prend ce mot périmé, qui se trouve être un mot du film.
Oui, bien sûr.
Celle que vous appelez Constance, la quiche, elle dit « mais vous êtes périmé », donc c'est le moment où chacun révèle sa vérité.
Le fait est que ça dépend de ce qu'on dégage quand même. Je connais des personnes âgées, Lynn Renault, qui est plus jeune que les jeunes, enfin qui a tout le temps envie d'un autre projet, d'acheter les droits d'un bouquin, qui aime la vie et qui a envie de rester en vie. Qui a envie. Voilà, c'est clair comme mot. Donc, justement, ma mère, ça dépend de là où on en est. Si on a envie d'évoluer encore, on dégage une énergie jeune qui est le contraire de quelque chose de périmé.
Vous pensez qu'être un bon vivant, ça aide être un bon vieux?
Ah ouais, quelqu'un qui kiffe. Qui bon kiffe vivant. Sa life.
C'est presque un programme de vie, être un bon vivant. Un bon vieux, et j'aurais presque envie d'ajouter un bon mort aussi, un mec qui lâche pas trop de cadavres dans le placard.
Mais oui.
Enfin, ou une femme.
Mais évidemment. Oui, mais oui, bien sûr. C'est un beau programme.
Ça va, une jolie épitaphe. Bon Absolument. Vivant, bon vieux et bon mort. Voilà, c'est cohérent.
Salut.
Michel Larocque, vous aimez autant l'opéra italien que le rap américain.
Ouais.
Qu'est-ce que vous écoutez comme rap américain?
Oh, ben j'aime beaucoup 50 Cent, j'aime Dr. beaucoup Dre. Eminem, j'aime beaucoup, oui, Dr. Dre bien sûr, Missy Elliott, j'aimais un peu tout ce rap-là. Et je trouve qu'il y a une énergie particulière. On va chercher, l'autre jour j'étais dans un festival, le festival de Julie Gayet sur Jumelles, et il y avait Stéphane Escher qui a fait un concert, et j'étais un peu fatiguée, et ben je suis restée debout pendant 2 heures à les écouter, parce qu'ils dégageaient une énergie, il y avait un tellement bon son, j'ai dit, mais vraiment, vous m'avez fait du bien. Il y a ça aussi qu'on va rechercher dans la musique.
Bien sûr, cette espèce d'énergie qui fait qu'on on a envie de consentir à la vie, et encore une fois, même si elle n'est pas parfaite.
Vous les vieux, vous êtes toujours là, vous extasiez devant les enfants, qu'il est mignon, gna. Feriez mieux de vous excuser, ouais. Non mais regardez autour de vous, vous nous laissez un monde tout pourri. Vous avez salopé la maison et vous vous pointez pour souhaiter bon courage au locataire suivant. Ah, vous manquez pas d'air, hein.
Mais qu'est-ce qu'on vous a fait?
Ce que vous m'avez fait, ma petite dame? Mais votre génération est à l'origine de tous les fléaux du monde moderne. La mondialisation, hein, l'ultralibéralisme, la pollution, la surexploitation, l'agriculture extensive, les paradis fiscaux, la communication, tout! Vous êtes un conséquent rétrograde bigot, vous votez à droite. En 80 ans, vous avez épuisé la quasi-totalité des espèces vivantes. Vous avez épuisé les ressources. Vous faites les poissons. Il y a 50 milliards de poulets élevés en batterie chaque année dans le monde et les gens crèvent de faim. Historiquement, vous. Mais vous êtes la pire génération de l'histoire de l'humanité. Et un malheur venant jamais seul, ben vous vivez hyper vieux.
C'était un extrait du film Les Vieux Fourneaux, adapté de la bande dessinée. Alors, vous vivez vieux en plus d'avoir tout consommé, et en même temps, vous vous émerveillez, et parfois ça agace aussi la jeune génération, cette possibilité de s'émerveiller, cette disponibilité pour l'émerveillement. Est-ce que c'est pas aussi ça, bien vieillir, c'est retrouver une disponibilité pour ouvrir les yeux sur, au fond, ce qui est beau?
Évidemment, mais il y a aussi le fait que, pour reprendre ce qui est évoqué là dans l'extrait, que les progrès scientifiques ont été extraordinaires. Et je ne sais pas si les progrès de l'âme humaine ont suivi ce côté exponentiel. Et c'est là aussi où ça un peu fauté, quoi, parce que tout d'un coup, on était dépassé. C'est comme aujourd'hui, Internet, etc., les portables. Il y a une génération où les parents ont pris ça en cours, ne sont pas nés avec, donc ils n'ont pas su exactement guider leurs enfants par rapport à tout ça, tous ces progrès-là. Donc, vous voyez, et c'est là où il faut se mettre à la place des autres. Il ne faut pas dire aujourd'hui, moi, avec toutes ces infos, je trouve que vous avez complètement déconné. Je pense qu'il faut dire, oh là là, oui, c'est vrai, qu'est-ce que j'aurais fait? Moi, c'est comme ça aussi que j'arrive à comprendre en me disant, je ne sais pas si avec tel traumatisme, je serais pas en train de faire même pire que la personne que je suis en train de juger au départ. Hein, voilà.
Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que voilà, les progrès de la médecine sont fous. Ils nous ont donné, allez, on va dire, 20 ans de vie supplémentaire par rapport à il y a 40 ans. ans. Et la question que vous posez très justement, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? C'est pas qu'as-tu fait de tes 20 ans, c'est qu'est-ce que tu vas faire de tes 20 ans de vie supplémentaire. Et peut-être qu'on se pose pas assez, individuellement et du point de vue sociétal, cette question.
Mais oui, mais moi je ne comprends pas qu'on nous explique pas depuis la naissance qu'on doit évoluer. Qu'on doit se poser des questions, qu'on doit se remettre en question.
Et jusqu'au bout.
On le découvre, ah bon ? Ah, c'est ça, ce travail qu'on doit faire sur soi, jusqu'au bout. Et justement, profitons, quand c'est le cas, d'avoir moins d'activités professionnelles ou familiales pour le faire.
Et c'est pour ça que c'est très émouvant de voir des personnes âgées, très âgées, commencer une psychanalyse, commencer une psychothérapie, retomber amoureux.
Et se libérer.
Je vois ça souvent dans les conférences que je donne. Dans les conférences de philosophie, de fait, il y a beaucoup de personnes qui ont du temps, donc beaucoup de retraités. Je vois des couples se former, des couples de gens qui ont 80 ans, et il y a une jeunesse comme ça nouvelle dans le grand âge.
Et puis je trouve ça formidable. Déjà, c'est très bon signe qu'ils aient envie d'aller à une conférence philosophique. Parce que j'ai des fous rires en entendant justement des propos de philosophe, parce que ça ouvre des portes tellement incroyables, des remises en question totales de façon de voir, de prismes qui sont jouissifs. C'est comme ça qu'on a envie de voir la vie.
Et en même temps, on se dit un peu, quand on voit la joie comme ça que ça procure, on se dit quand même, c'est bizarre que la civilisation nous prenne tellement de temps qu'on ait besoin d'attendre d'être à la retraite pour en fait se poser les vraies questions, profiter vraiment et savoir enfin totalement ouvrir les yeux et s'émerveiller.
Bon, il y en a qui le font quand même en pleine activité, hein. C'est des choix, encore une fois.
Ouais, c'est la phrase d'Épicure, il n'est jamais trop tôt ni trop tard, pour philosopher.
Exactement.
On a presque envie de rajouter avec vous, Michel Larocque, il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour rire de la vie et ainsi apprendre à l'aimer vraiment.
Écoutez, moi je suis entièrement d'accord avec ce programme-là.
Merci beaucoup Michel Larocque de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon. C'était bien le soleil de Platon et suite Socrate militant de l'ironie.
Oui.
Je vais essayer, mais pas une ironie moqueuse, une ironie qui tend la perche à celui qui a l'égard, comme le dira très bien Yankelevitch dans son livre L'ironie. Je voudrais résumer quand même la philosophie de la vie qui a été la vôtre ce matin, qu'on a bien entendu. Une vraie philosophie de la joie et non pas de ce bonheur serein. Une philosophie dans laquelle vous montrez que non, on n'est pas là pour remettre dans le rang le différent, que c'est pas ce rire-là qui est le rire qui a fait votre succès et votre longévité et qui maintient la vitalité de votre désir. Non, c'est un rire beaucoup plus généreux, altruiste, empathique. C'est un rire de joie communicative, un rire de partage, un rire par lequel on te dit, toi qui es différent, je ne vais pas te faire rentrer dans le rang, je vais t'autoriser à être comme tu es, je vais rire avec toi, je vais me réjouir avec toi du miracle même que la vie existe et que nous ayons un corps pour le savoir. Merci beaucoup Michel Larocque.
Merci à vous.
Cette émission a été réalisée par Alicia Vulot. Merci beaucoup Alicia. Avec à la technique Florian Dorimini, à la programmation musicale Valentine Chaudebois. Elle a été excellemment préparée par Vera Lou Deride et Fabrice Rivaud. Quant à moi, je vous retrouve demain matin à 9h exactement sous le soleil de Platon dans la caverne de France Inter.